Bonjour et bienvenue à vous. Un grand merci de nous rejoindre en ce lundi 3 février 2005. Nanit Talani à Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui. Au menu, Kigali salue l'appel de la SADC pour une solution au conflit en RDC. L'ONU condamne l'attaque meurtrière contre les civils à Omdurman au Soudan. Marco Rubio appelle le Panama à réduire l'influence chinoise sur le canal. Début des manœuvres électorales au Cameroun pour 2025. Paul Biya se représentera-t-il? Nous parlerons aussi de la crise des ordures au Congo-Brazzaville.
La ville de Brazzaville n'est pas toujours propre comme on le souhaiterait. Il faut collecter ces déchets là où ces déchets sont générés, au niveau des ménages.
En économie, accord de financement en faveur de la sécurité alimentaire au Nigeria. Et puis en sport, annonce du calendrier des matchs de la CAN 2025. Tout de suite, le journal. Le Rwanda a salué hier l'appel de la SADC à organiser un sommet conjoint régional pour régler le conflit en cours en République démocratique du Congo. Les précisions avec Yakuba Ouedraogo.
Les 16 pays membres de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, ont réclamé un sommet conjoint avec les 8 pays de l'EAC, Communauté de l'Afrique de l'Est, pour, disent-ils, réfléchir à la manière de régler la situation sécuritaire en RDC. Le M23 et l'armée rwandaise sont entrés dans Goma la semaine dernière. Le ministère rwandais des Affaires étrangères a salué cette initiative, affirmant avoir plaidé en faveur d'une solution politique au conflit en cours. Vendredi, les dirigeants de la SADC ont réaffirmé leur engagement indéfectible à continuer de soutenir la RDC. L'EAC a pour sa part exhorté le gouvernement de la RDC à engager le dialogue avec tous les acteurs, dont le M23, ce dont il n'est pas question côté SADC. Le Rwanda n'a jamais admis son soutien militaire au M23, mais un rapport d'experts de l'ONU estime à environ 4000 hommes les forces rwandaises déployées dans l'est de la RDC. Kinshasa accuse Kigali de vouloir piller ses richesses naturelles dans la région. Le Rwanda nie et affirme vouloir éradiquer des groupes armés, dont ceux créés par d'ex-responsables Hutu du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, qui menace, selon lui, sa sécurité.
Guerre au Soudan, les Nations Unies ont condamné hier les récentes attaques meurtrières contre des civils dans un marché à Omdurman, proche banlieue de Khartoum, qui a fait au moins 60 morts, selon l'ONU. Le point avec John Lindon.
Dans un communiqué, la coordinatrice de l'Agence d'action humanitaire des Nations Unies au Soudan, Clémentine Kouata Salami, a dénoncé ce qu'elle qualifie d'horrible attaque indiscriminée qui a visé samedi un marché à Omdurman et d'autres zones résidentielles de la capitale Khartoum. L'attaque contre le marché, situé dans une zone contrôlée par l'armée, a été attribuée par un groupe de la société civile aux paramilitaires des forces de soutien rapide qui ont démenti en être à l'origine. Kouata Salami a aussi déploré les informations faisant état de meurtre de civils entre jeudi et samedi au Kordofan Nord, dans le sud du pays et dans la région occidentale du Darfour. L'armée soudanaise a annoncé avoir repris la ville d'Oum Rawaba, située sur une autoroute stratégique reliant le nord Kordofan au centre du Soudan, qui était aux mains des FSR. Kouata Salami a soutenu qu'il est plus que temps de mettre fin à cette guerre. Depuis avril 2023, les FSR sont en guerre contre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes.
Le président américain Donald Trump a accusé dimanche l'Afrique du Sud de confiscation de terres après la promulgation d'une loi d'expropriation par son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa et a annoncé l'arrêt de tout financement du pays le temps d'une enquête. L'Afrique du Sud confisque des terres et traite très mal certaines catégories de personnes. Les États-Unis ne toléreront pas cela, nous agirons. De plus, j'interromprai tout financement futur de l'Afrique du Sud jusqu'à ce qu'une enquête complète sur cette situation ait été menée à bien, a déclaré M. Trump sur Truth Social. La loi d'expropriation signée par le président Cyril Ramaphosa permet au gouvernement de procéder à des expropriations sans compensation sous certaines conditions. Le gouvernement sud-africain a donné à Taïwan jusqu'en fin mars pour déplacer son ambassade de facto de Pretoria, exigeant également qu'elle soit rebaptisée en bureau commercial. Cette décision, attribuée à la pression de la Chine, intervient après la rupture des relations diplomatiques officielles entre l'Afrique du Sud et Taïwan en 1997. Taïwan a dénoncé cette demande comme une intensification de la répression chinoise dans le pays, bien que des négociations entre les deux parties soient en cours. Le gouvernement de la région somalienne semi-autonome du Puntland a affirmé que des frappes aériennes des États-Unis sur les monts Golis avaient tué des figures clés du groupe État islamique. Un communiqué du gouvernement somalien publié à Mogadiscio parle d'une opération coordonnée conjointement par les gouvernements somaliens et américains visant des chefs haut placés de l'État islamique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré au président du Panama qu'il devait réduire l'influence chinoise sur la zone du canal de Panama. C'était hier, lors de son premier voyage à l'étranger en tant que chef de la diplomatie américaine. Davantage avec Eric Manirakiza.
Le département d'État américain a affirmé dans un résumé de la réunion que Marco Rubio a informé le président José Raúl Moreno que son homologue Donald Trump estime que la situation actuelle du canal était inacceptable. Le président Trump parle d'une influence et du contrôle du Parti communiste chinois sur la zone du canal de Panama, qui est une menace pour le canal et représente une violation du traité concernant la neutralité permanente et le fonctionnement du canal de Panama. En l'absence de changement immédiat, les États-Unis menacent de prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs droits. Le président Donald Trump a demandé que le canal de Panama soit restitué à son pays. Le président Moreno a déclaré qu'il n'y aurait pas de négociation avec les États-Unis sur la propriété du canal. Il a plutôt suggéré un élargissement possible d'un accord existant avec les États-Unis depuis juillet dernier. Cet accord prévoit d'ouvrir la voie à des expulsions de migrants non panaméens qui traversent la jungle de Darien Gap sur la frontière méridionale du Panama avec la Colombie. Il a toutefois insisté sur le fait que le gouvernement américain devrait en assumer le coût.
L'émissaire des États-Unis pour la guerre en Ukraine, le général à la retraite Kate Kellogg, a estimé hier que les deux camps vont devoir faire des concessions pour parvenir à mettre un terme au conflit déclenché donc par l'invasion russe. Abdourahman Dia nous en dit plus.
Les deux camps vont devoir faire des concessions, c'est comme ça que les négociations fonctionnent et je pense que les deux parties feront des concessions. C'est ce qu'a déclaré l'émissaire de Donald Trump sur la chaîne Fox News. C'est dans notre intérêt à la fois ici aux États-Unis mais aussi au niveau international de faire en sorte de mettre un terme au conflit qui dure depuis près de 3 ans, a affirmé Keith Kellogg. Il a ajouté que le président Trump est la seule personne capable d'y parvenir. La perspective de négociation entre Moscou et Kiev est de plus en plus évoquée depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain a critiqué les sommes dépensées par les États-Unis pour aider l'Ukraine, mais a menacé Moscou de sanctions supplémentaires. Le président russe Vladimir Poutine s'est dit prêt le mois dernier à des discussions avec l'Ukraine, mais pas avec Volodymyr Zelensky, qu'il a qualifié d'illégitime. Ce n'est pas à Poutine d'en décider, a répondu l'émissaire des États-Unis.
La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, attend une réponse du président américain Donald Trump à sa proposition de dialogue après l'annonce de l'imposition du tarif douanier de 25% sur les exportations mexicaines. Le président Donald Trump a annoncé qu'il va discuter ce lundi avec le premier ministre canadien Justin Trudeau ainsi que le gouvernement mexicain. Le Canada a annoncé qu'il va contester devant l'Organisation mondiale du commerce les nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis. Le président Donald Trump a aussi assuré ce dimanche que les produits européens seront très bientôt à leur tour visés par les droits de douane après ceux qu'il a imposés sur les produits provenant du Mexique, du Canada et de la Chine. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit parler ce lundi à Washington avec son allié américain de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza avant d'être reçu mardi par Donald Trump qui a assuré que les discussions progressent. C'est tout pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Voyons maintenant les points clés des évolutions économiques et financières en Afrique avec Nathalie Barge.
Au Nigeria, l'État du Niger a signé un partenariat de financement agricole de 5 milliards de naira avec le Fonds national de développement agricole afin d'améliorer la sécurité alimentaire et de renforcer la productivité, indique ce fonds sur Facebook. Chaque partenaire fournira 2,5 milliards de naira pour financer une initiative de culture à grande échelle pour la production de riz et de maïs sur 4 000 hectares, ciblant des petits exploitants agricoles. En Égypte, une nouvelle ligne de production de canettes Coca-Cola a été lancée dans l'usine basée à Sadat City. La nouvelle installation de 31,5 millions de dollars a une capacité d'embouteillage de 120 000 canettes par heure, soit une production annuelle de quelque 1,72 millions d'hectolitres. L'investissement va permettre à l'usine Coca-Cola HBC Égypte d'atteindre une capacité de production de 7,2 millions d'hectolitres par an. La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, va se rendre en Éthiopie les 8 et 9 février dans le cadre des réformes économiques, a indiqué le ministère des Finances. L'Éthiopie a enregistré des taux élevés de croissance économique entre 2004 et 2019, mais l'inflation a atteint 34% en 2022. Elle s'est rétablie à 24% et devrait se situer à 13% l'année prochaine. Selon les prévisions du FMI, le taux de croissance devrait croître de plus de 6% cette année.
Restez avec nous pour un tour d'horizon des développements sportifs avec Élisée Oukpatin. Bonjour Élisée, bonjour à tous.
Bonjour Nanit et bonjour à tous.
D'abord le football. La CAF annonce le calendrier des matchs de la prochaine CAN prévue en fin d'année au Maroc.
Oui, un agenda bien fourni sur 9 stades, reparti dans 6 villes avec comme match d'ouverture Maroc-Comores le 21 décembre 2025 au nouveau complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat. Et les 6 villes concernées sont Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès, Tanger et Rabat.
L'instance dirigeante du football africain modifie le règlement de ces deux compétitions de clubs et prolonge la date limite d'inscription des joueurs jusqu'au 28 février.
Et c'est pour permettre aux clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF d'inscrire des joueurs qui ont déjà participé à l'une des deux compétitions au cours de la même saison. Pour l'instance qui gère le foot en Afrique, cette modification apportée au présent règlement va contribuer à rendre ces interclubs attractif et pourrait également améliorer le niveau de ses représentants au Mondial des clubs de la FIFA qui se tiendront aux États-Unis en juin-juillet prochain.
Et en attendant la reprise de ces deux compétitions, les clubs s'activent dans leur championnat.
Tout à fait, Nanit. Et en Afrique du Sud, Orlando Pirates, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, s'est offert Kaizer Chiefs dans le derby de Soweto lors de la 14e journée de la Première Ligue Soccer, score 1-0. Ce succès lui permet de garder sa deuxième place au classement à 6 points du leader Mamelodi Sundowns, vainqueur 4-0 des Golden Arrows. Et en Tunisie, l'Espérance de Tunis prend la tête du championnat au terme de la 17e journée grâce à son succès 4-2 face à l'AS Soliman.
Élisée, le stade d'Abidjan prend aussi seul la tête du championnat en Côte d'Ivoire.
Oui, les Yéyés victorieux 1-0 du FC San Pedro profitent du faux pas de la FAD battu 1-0 par le Racing Club d'Abidjan pour être seul en tête du classement avec 33 points. Et puis au Mali, c'est l'USFAS qui domine le championnat après 11 journées. Les militaires, vainqueurs 3-2 de Binga, totalisent 20 points, 2 de plus que Afrique Football Elite qui a facilement battu 3-0 l'AS Police.
Du handball pour finir, le Danemark remporte le mondial masculin en Norvège.
Un quatrième sac consécutif pour les Danois qui confirment leur suprématie mondiale après avoir étrié en finale la Croatie 32-26. La médaille de bronze est revenue à la France qui a battu in extremis le Portugal 35-34. Et puis, pour les représentants africains, l'Égypte sortie en quart de finale finit en cinquième position. La Tunisie et le Cap-Vert, respectivement 22e et 23e, puis la 30e et 31e place pour l'Algérie et la Guinée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani toujours dans ce studio pour vous faire découvrir les reportages dans notre segment magazine. Au Cameroun, les grandes manœuvres ont commencé dans la perspective de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Ces derniers jours, certains chefs traditionnels et religieux, ainsi que des responsables de partis de l'opposition, ont constitué une alliance pour une nouvelle candidature du président Paul Biya. Pendant ce temps, la question de l'investiture des deux leaders de l'opposition fait toujours débat. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juluntap.
Les membres du Conseil national des chefs traditionnels, les autorités religieuses des régions de la Damawa du Nord et de l'Extrême Nord, ainsi que les imams des mosquées centrales de Douala et Yaoundé, ont officiellement appelé à une candidature du président Paul Biya. Leur déclaration a été reçue par Paula Tanganji, ministre de l'administration territoriale.
Ils ont clairement exprimé leur volonté de soutenir de manière totale et inébranlable la candidature de son Excellence M. Paul Biya à l'élection présidentielle de 2027. Je vais les transmettre à son Excellence M. Paul Biya ce jour.
Les appels à la candidature du président Paul Biya provoquent cependant des dissensions au sein de certaines formations politiques, notamment au Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale PCRN. L'un de ses pères fondateurs, Robert Kona, soutient Paul Biya en 2025.
Pour aujourd'hui, nous croyons que nous avons tous suivi, nous avons tous vu et nous croyons que la victoire est pour notre candidat, son Excellence Paul Biya, en 2025.
Colère du député Cabral Libi, par ailleurs président du PCRN, d'après une décision de justice datée du 25 septembre 2024, laquelle a ordonné Robert Kona de cesser d'agir au nom du PCRN. Cabral Libi dénonce une machination.
Ce qui est ourdi dans un ministère à Yaoundé, contre le Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale, le PCRN, contre ma personne et plus précisément contre ma candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le mot d'ordre là-bas est de mépriser la justice et les décisions de justice. Je demande au peuple de se tenir en alerte, parce que 2025 ne sera pas comme les années précédentes.
L'interprétation de la loi concerne également une éventuelle candidature de Maurice Kamto. Plusieurs responsables du RDPC, le parti au pouvoir, et certains membres du gouvernement affirment que le MRC, qui n'a pas d'élus locaux, ne peut pas investir un candidat pour l'élection présidentielle. Maurice Kamto répond.
Est-ce que la loi dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant participé aux dernières élections législatives? Pourquoi vous voulez réécrire la loi? Tous les jours, vous me dites, la presse, j'entends sur les plateaux de télévision, on dit que oui, Kamto, bon, vraiment, c'est un bon juriste, machin, il est un mauvais politicien. Les gens disent ça et la minute d'après, ils veulent me donner des leçons de poids. On veut conditionner le Conseil constitutionnel ou l'ELECAM en disant que oui, vous ne devez pas accepter la candidature de Kamto. Mais là, ce serait une violation de la loi.
Selon les statistiques de Elections Cameroun, l'organe électoral, il y a plus de 7 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale nationale qui n'a toujours pas été publiée deux mois après le délai prévu par la loi. Ce retard est dû à une attaque cybernétique du site d'ELECAM, selon Abrams Ekbe, le président du Conseil électoral. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Tchad, le processus de rétrocession des bases militaires françaises, commencé au début du mois de janvier, a pris fin la semaine dernière. La base Sergent Hadi Kosseï de N'Djamena a été rétrocédée au Tchad en présence du chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno. André Kodmadingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
C'est donc un jour exceptionnel dans la marche de notre pays qui marque la fin effective de la présence militaire française au Tchad. Une première depuis 125 ans. Je pèse et mesure parfaitement mes mots.
Le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno présidant la cérémonie de fin de désengagement de l'armée française au Tchad. La rétrocession de la dernière base située au cœur de la capitale tchadienne marque le retrait complet et définitif des forces françaises stationnées sur le sol tchadien depuis plus de 120 ans. Certains citoyens sont pessimistes quant à la sincérité de cette décision.
Malgré leur présence, nous voyons que les attaques ou bien l'insécurité va grandissant. Donc le mieux là, c'est de séparer dans la paix. Est-ce que ces gens-là, ils se sont pas déguisés en d'autres choses? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont réellement partis?
C'est depuis 1960 que le Tchad est indépendant et à quoi sert d'accepter les bases militaires étrangères sur notre sol? Donc je salue cette décision. Mais est-ce que cette décision est mûrement réfléchie? Parce que la France, au temps de Maloum, a décidé d'évacuer les bases françaises au Tchad. Mais ils sont revenus. Mais est-ce que les autorités ont pris toutes les décisions possibles pour que cela ne se reproduise pas?
Le maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, rassure ses compatriotes en ces termes.
En reprenant le contrôle total de toutes les bases militaires françaises établies dans notre pays, nous ne rompons pas nos relations avec la France, mais nous mettons un terme à la dimension militaire de cette coopération. Il nous faut, chers compatriotes, compter sur la bravoure et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité pour construire sur un sens élevé de patriotisme au prix de tout sacrifice.
L'universitaire Dr Ivaris Ngarlom Toldé, membre de l'Alliance panafricaine Umoja Toumaï, salue cette décision et estime que le retrait définitif des troupes françaises sur le sol tchadien est une avancée majeure vers l'émancipation nationale. Toutefois, il exige une réforme profonde de l'armée tchadienne.
C'est une rupture historique. Après plus de 100 ans de présence militaire sur notre territoire national, une présence ayant constamment entravé notre autodétermination. Ce départ ne signifie pas pour autant la fin des influences impérialistes. Il doit être suivi de rupture des accords coloniaux restants et des réformes structurelles profondes. Et la transformation de notre armée est essentielle pour garantir une souveraineté pleine et entière, affranchie de toute influence extérieure.
Après le Mali, le Burkina et le Niger, c'est au tour du Tchad de forcer les militaires français vers la sortie. Benjamin en précise que ce n'est pas pour autant la fin de la coopération avec la France dans d'autres domaines. André Kordoma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM. Au Tchad.
Au Congo-Brazzaville, le gouvernement tient ce lundi dans la capitale une conférence sur l'assainissement urbain. Les deux principales villes du pays, Brazzaville et Pointe-Noire, font actuellement face à une importante crise de collecte des ordures ménagères. Les acteurs plancheront au cours de cette rencontre sur les mécanismes de collecte et de gestion durable des ordures qui jonchent aujourd'hui les rues. Le cas de la capitale est patent car les ordures obstruent la circulation dans certains quartiers. Le reportage de Arsène Séverin, notre correspondant sur place.
La crise des ordures qui s'est déclarée depuis la fermeture en septembre dernier de la société Averda en charge de la collecte des ordures ménagères perdure jusqu'à ce jour. L'entrepreneur turc qui devait remplacer Averda n'a toujours pas totalement posé ses valises à Brazzaville où les populations côtoient désormais l'insalubrité. Les ordures débordant les bacs jonchent les trottoirs et obstruent les artères.
La ville de Brazzaville n'est pas toujours propre comme on le souhaiterait. Il faut collecter ces déchets là où ces déchets sont générés, au niveau des ménages. D'autres, vous arriverez dans des ménages à Brazzaville, des gens qui n'ont pas de poubelle.
La poubelle, là, ça ne peut pas rester comme ça. Là. On travaille, nous sommes dans les restaurants. Les clients sont en train d'acheter la nourriture à manger. Et puis, là, maintenant, on sent vraiment l'odeur. On souffre. À bientôt, là, on va tomber malade de typhoïde.
Ça fait au moins pratiquement un mois que ça est là. Il vient seulement ajouter. Il vient seulement ajouter. Au lieu d'enlever, non. Les odeurs, là, ça nous dérange trop. Selon moi, les choses comme ça ne peuvent pas rester en pleine ville comme ça. Pour la santé des peuples, ça indispose.
Ça risque un peu d'entrer dans les routes, fermer la route. On n'aura plus là où les véhicules vont passer.
Je pense qu'il y a des services habilités pour ça, alors qu'ils sont le pourtour. L'hygiène, la santé, c'est pour le bien de tous. Et donc, nous sommes censés plutôt être prudents pour l'hygiène.
la mairie de Brazzaville, impuissante, essaie de colmater les brèches avec des petites solutions. Un employé de la municipalité explique.
Actuellement, la mairie intervient dans la gestion des ordures ménagères, tout simplement en élaborant des programmes journaliers et hebdomadaires avec les partenaires privés qui nous accompagnent moyennant la mise à disposition de leurs camions et engins des travaux. Nous évacuons au fur et à mesure sur le terrain les déchets.
C'est dans ce contexte que s'ouvre ce lundi à Brazzaville une conférence sur l'assainissement urbain. Le nouveau ministre à ce poste, Juste Désiré Mondele, semble avoir pris cette crise à bras le corps. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Pour terminer, dans le nord du Bénin, plus précisément à Koukiri, les hommes ne se confinent pas dans leur rôle de père. Ils s'investissent aussi dans le bien-être des enfants au point de ravir la vedette aux femmes. La dynamique engendrée par le club des pères fait tache d'huile. Les précisions sur cette véritable école où chaque papa a son mot à dire dans la lutte contre la malnutrition des enfants avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
Au Bénin, 3 enfants sur 10 souffrent de malnutrition dans le petit village de Koukiri, situé au nord du pays à plus de 350 km de Cotonou. Les habitants ont fait de cette lutte un véritable combat. Chaque jour, ils s'engagent avec détermination pour combattre ce fléau et assurer une alimentation de qualité à leurs enfants. Le projet qui a permis une telle joie est intitulé « Promotion des bonnes pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ». L'objectif est d'assainir et de permettre un bon état nutritionnel pour tous les enfants. Gaël Logozo, chargé de nutrition au bureau UNICEF de Parakou, explique l'implication de l'UNICEF dans ce projet.
On ne peut pas concevoir ni mettre en œuvre un projet sans les communautés elles-mêmes. Et l'UNICEF vraiment adopte une approche de transfert de compétences, d'accord? On leur donne la connaissance, on leur apprend comment faire et on les accompagne à maintenir les pratiques. On a établi des partenariats avec des ONG locales qui maîtrisent les dynamiques communautaires. Ensemble, on essaie d'organiser une diagnostic communautaire avec la communauté.
Dans le cadre de ce projet, il y a eu la création et la promotion d'un village propre avec 0 enfant malnutri. L'idée émane de l'ONG Sianson afin d'établir des communautés modèles où la santé des enfants est assurée grâce à une synergie d'initiatives en matière d'hygiène, d'assainissement, de nutrition et d'engagement communautaire. Véronique Tineponamti, chef de projet à l'ONG Sianson.
Et au départ, nous étions à une prévalence de 32% de la malnutrition aiguë. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que tous les enfants qui sont ici sont en bon état nutritionnel grâce aux interventions de Sianson dans cette communauté.
À Koukiri, l'engagement des pères a entraîné un véritable changement de comportement social et l'adoption de bonnes pratiques au sein des ménages. Désormais, les hommes participent activement aux tâches domestiques aux côtés de leurs épouses grâce aux efforts de sensibilisation menés par l'ONG Sianson. Sani Ibrahim, dit Papa Manassé, est membre du Club des Pères. Il nous donne ici son rôle dans la communauté.
De sensibiliser toute la population de Koukiri en leur disant, une fois que vous êtes allé à l'hôpital, après accouchement, avant de faire une aide de temps, il faut donner le premier lait à son enfant. Même si c'est à l'hôpital, il faut réclamer ça à donner à l'enfant. Le premier lait est riche et ça protège beaucoup.
Sur la place publique du village, les membres du Club des Pères sensibilisent d'autres hommes, leur montrant comment préparer des repas enrichis pour les enfants de moins de 5 ans. Pour une communauté très ancrée dans la tradition, le Club des Pères est une initiative qui vient briser les tabous. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Cette édition touche à sa fin et nous ne saurions la clore sans remercier vivement la rédaction pour sa collaboration. Un immense merci également à nos reporters sur le terrain dont l'implication et le courage ont beaucoup apporté dans la production de ce journal. Leur travail sur le terrain nous permet de vous offrir une information actualisée, précise et au plus près de la réalité. Au micro, Nanit Talani, à la mise en onde, Firmin Max Kouyaouida, à la technique, Kelvin Fowler. Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine édition. Au revoir.